Habitué à y trouver les sommes dont il avait besoin, après des années de naturelle sagesse, presque nulle comme dépense, qu'il avait fini par croire ses économies inépuisables. Oh, si riait-il d'aise. Vous allez voir, vous allez voir. Et il resta confondu lorsque, à la suite de fouilles fiévreuses parmi un amas de notes et de factures, il ne put réunir qu'une somme de 615 francs, 2 billets de 100 francs, 400 francs en or et 15 francs en petite monnaie. Il secouait les autres papiers, il passait les doigts dans les coins du tiroir en se récriant « Mais ce n'est pas possible! Mais il y en a toujours eu! Il y en avait encore des tas ces jours-ci! Et il faut que ce soit toutes ces vieilles factures qui m'aient trompé! Je vous jure que l'autre semaine j'en ai vu, j'en ai touché beaucoup !» Il était d'une bonne foi si amusante, il s'étonnait avec une telle sincérité de grand enfant, que Clotilde ne put s'empêcher de rire. Ah, ce pauvre maître! Quel homme d'affaires pitoyable! Puis, comme elle remarqua l'air fâché de Martine, son absolu désespoir devant ce peu d'argent qui représentait maintenant leur vie à tous les trois, elle fut prise d'un attendrissement désolé. Ses yeux se mouillèrent, tandis qu'elle murmurait « Mon Dieu, c'est pour moi que tu as tout dépensé. C'est moi la ruine, la cause unique, si nous n'avons plus rien. » En effet, il avait oublié l'argent pris pour les cadeaux. La fuite était là, évidemment. Cela le rasséréna de comprendre. Et comme, dans sa douleur, elle parlait de tout rendre au marchand, il s'irrita. « Ce que je t'ai donné, le rendre? Mais ce serait un peu de mon cœur que tu rendrais avec. Non, non, je mourrais de faim à côté. Je te veux tel que je t'ai voulu. » Puis, confiant, voyant s'ouvrir un avenir illimité, « D'ailleurs, ce n'est pas encore ce soir que nous mourrons de faim, n'est-ce pas, Martine? Avec ça, nous irons loin. » Martine hocha la tête. Elle s'engageait bien à aller 2 mois avec ça, peut-être 3, si l'on était très raisonnable, mais pas davantage. Autrefois, le tiroir était alimenté, de l'argent arrivait toujours un peu. Tandis que maintenant, les rentrées étaient complètement nulles depuis que monsieur abandonnait ses malades. Il ne fallait donc pas compter sur une aide venue du dehors. Et elle conclut en disant « Donnez-moi les 2 billets de 100 francs, je vais tâcher de les faire durer tout un mois. Ensuite, nous verrons. Mais soyez bien prudent, ne touchez pas aux 400 francs d'or, fermez le tiroir et ne le rouvrez plus. » « Oh ça !» cria le docteur, « tu peux être tranquille, je me couperai plutôt la main. » Tout fut ainsi réglé. Martine gardait la libre disposition de ses ressources dernières. Et l'on pouvait se fier à son économie, on était sûr qu'elle rognerait sur les centimes. Quant à Clotilde, qui n'avait jamais eu de bourse personnelle, elle ne devait même pas s'apercevoir du manque d'argent. Seule, Pascal souffrirait de n'avoir plus son trésor ouvert, inépuisable. Mais il s'était formellement engagé à tout faire payer par la servante. « Ouf, voilà de la bonne besogne !» dit-il, soulagé, heureux, comme s'il venait d'arranger une affaire considérable qui assurait pour toujours leur existence. Une semaine s'écoula. Rien ne semblait changer à la Souleyade. Dans le ravissement de leur tendresse, ni Pascal ni Clotilde ne paraissaient plus se douter de la misère menaçante. Et, un matin que celle-ci était sortie avec Martine pour l'accompagner au marché, le docteur, resté seul, reçut une visite qui le remplit d'abord d'une sorte de terreur. C'était la revendeuse qui lui avait vendu le corsage en vieux point d'Alençon, cette merveille, son premier cadeau. Il se sentait si faible contre une tentation possible qu'il en tremblait. Avant même que la marchande eût prononcé une parole, il se défendit. Non, non, il ne pouvait, il ne voulait rien acheter. Et, les mains en avant, il l'empêchait de rien sortir de son petit sac de cuir. Elle, pourtant, très grasse et affable, souriait, certaine de la victoire. D'une voix continue, enveloppante, elle se mit à parler, à lui conter une histoire. Oui, une dame qu'elle ne pouvait pas nommer, une des dames les plus distinguées de Plassans, frappée d'un malheur, réduite à se défaire d'un bijou. Puis, elle s'étendit sur la superbe occasion, un bijou qui avait coûté plus de 1 200 francs, qu'on se résignait à laisser pour 500. Sans hâte, elle avait ouvert son sac, malgré l'effarement, l'anxiété croissante du docteur. Elle en tira une mince chaîne de cou, garnie par devant de 7 perles, simplement. Mais les perles avaient une rondeur, un éclat, une limpidité admirables. Cela était très fin, très pur, d'une fraîcheur exquise. Tout de suite, il l'avait vu, ce collier, au cou délicat de Clotilde, comme la parure naturelle de cette chair de soie, dont il gardait à ses lèvres le goût de fleurs. Un autre bijou l'aurait inutilement chargé. Ces perles ne diraient que sa jeunesse. Et déjà, il l'avait prise entre ses doigts frémissants. Il éprouvait une mortelle peine à l'idée de le rendre. Pourtant, il se défendait toujours, jurait qu'il n'avait pas 500 francs. Tandis que la marchande continuait, de sa voix égale, à faire valoir le bon marché, qui était réel. Après un quart d'heure encore, quand elle crut le tenir, elle voulut bien, tout d'un coup, laisser le collier à 300 francs. Et il céda. Sa folie du don fut la plus forte, son besoin de faire plaisir, de parer son idole. Lorsqu'il alla prendre les 15 pièces d'or dans le tiroir pour les compter à la marchande, il était convaincu que les affaires s'arrangeraient chez le notaire et qu'on aurait bientôt beaucoup d'argent. Alors, dès que Pascal se retrouva seul, avec le bijou dans sa poche, il fut pris d'une joie d'enfant. Il prépara sa petite surprise en attendant le retour de Clotilde, bouleversée d'impatience. Et, quand il l'aperçut, son cœur battit à se rompre. Elle avait très chaud. L'ardent soleil d'août embrasait le ciel. Aussi voulut-elle changer de robe, heureuse cependant de sa promenade, racontant avec des rires le bon marché que Martine venait de faire. 2 pigeons pour 18 sous.